Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Nous avons donc commencé à parler sur les 7 clés pour maximiser une nouvelle année. Et j'ai réduit en fait ce thème-là à ce thème-ci, les 7 clés pour réussir ses projets avec Dieu. Amen. Parce que tout cet enseignement-là consiste véritablement à réussir ses projets, mais à les réussir avec Dieu. Amen. Et quelle que soit l'année, quelle que soit la saison, quelles que soient les circonstances, quels que soient les temps que nous vivons, quel que soit l'endroit où nous serons, si nous respectons ces différents éléments-là, nous allons pouvoir collaborer avec Dieu pour pouvoir accomplir quelque chose. Amen. Nous avons vu que la première clé, c'était qu'il fallait honorer Dieu dans tout ce qu'on fait, dès le départ. Honorer Dieu, c'est lui donner la première place. Donc, ce n'est pas en cours de chemin qu'on en appelle à Dieu, mais c'est au début qu'on en appelle à Dieu. Alléluia. Et là, comme ça, on commence avec Dieu et on finit avec Dieu. Et donc, on respecte cette règle-là qu'il est l'alpha et qu'il est l'oméga, qu'il est le commencement et qu'il est la fin. Amen. Commençons à bâtir avec Dieu dès le départ. Qui a envie de commencer à bâtir avec Dieu, des choses avec Dieu? Amen. Certainement, comme on ne l'a pas connu très tôt dans notre vie, il y a certaines choses qu'on a bâties sans Dieu. Amen. Mais vous savez, si nous nous donnons la discipline de commencer maintenant à bâtir les choses que nous allons faire plus tard dans notre vie avec Dieu, on va se rendre compte que très rapidement, Dieu va prendre le contrôle total et absolu sur notre vie. Amen. Et puis même à commencer à affecter les choses qu'on a commencé à bâtir sans lui. Donc honorer Dieu, ça c'est la première clé. Deuxième clé, rester concentré. Éviter, dès qu'on a un projet, de se lancer dans 2, 3, 4, 5 autres projets. Vous savez, qu'est-ce qui arrive souvent? Lorsque vous voulez faire quelque chose, vraiment très régulièrement, lorsque par exemple vous avez le projet, par exemple, de bâtir une entreprise et que cette entreprise-là, par exemple, va vendre, je ne sais pas moi, je prends juste un exemple, des sacs. Tout de suite, vous allez voir des personnes qui vont venir vous proposer des chaussures, d'autres vont vous proposer des bijoux, d'autres vont vous proposer des crèmes, d'autres vont vous proposer tellement de choses. Et puis finalement, vous allez, alors que au début, vous étiez concentré sur une activité, qu'est-ce qui se passe? Vous allez commencer à toucher à toutes les opportunités, et puis finalement, vous avez tellement de choses que vous faites que vous ne réussissez dans aucune d'entre elles. Amen. Il y a un adage en anglais qui dit « All good things are not God things ». Si je traduis littéralement en français, ça veut dire « Toutes bonnes choses ne sont pas forcément de Dieu ». Amen. All good things are not God things. Toutes bonnes choses ne sont pas de Dieu, ne sont pas forcément de Dieu. Donc, l'ennemi peut vous arrêter en multipliant les bonnes choses dans votre vie. Comprenez? Donc, restez toujours concentré. Concentré sur le projet que vous avez commencé avec Dieu. Amen. Parce que je suppose que quand vous avez commencé ce projet-là, vous avez pris le temps de réfléchir, de prier, de chercher la face de Dieu et puis d'asseoir le projet. Donc, ne laissez pas des éléments étrangers venir changer la nature du projet au fur et à mesure que vous avancez. Parce que là également, c'est un piège de l'ennemi, c'est une séduction de l'ennemi. Vous comprenez? On n'est pas appelé à tout faire. Il y a des choses pour lesquelles nous sommes gifted, pour lesquelles nous avons le don, où on sera toujours forcément meilleur que les autres. Amen. On n'est pas appelé à tout faire. On est appelé à faire les choses pour lesquelles Dieu nous a équipés. Amen. Donc, restez concentrés. Troisièmement, il faut bâtir de bonnes relations. Bâtir de bonnes relations, c'est important dans la vie. Entretenez vos relations. Bâtissez de bonnes relations avec des personnes qui sont bien, des personnes qui vont vous encourager, des personnes qui vont vous challenger, des personnes qui vont vous pousser à être meilleur que vous n'êtes, des personnes même qui ont peut-être déjà 2 longueurs d'avance, 3 longueurs d'avance sur vous, des personnes devant lesquelles vous allez vous sentir tellement petit que vous allez avoir envie de grandir. Amen. Des personnes qui vont vous rendre mal à l'aise. Parce qu'ils sont en avance. C'est ce genre de personnes-là qui vont provoquer en vous le désir d'apprendre, le désir de chercher, le désir de vous lever tôt. Amen. Et il faut ce genre de relation dans vos vies. Parce que la Bible dit, le fer aiguise le fer, l'homme aiguise l'homme. Amen. Et celui qui marche avec les sages devient sage. Amen. Et le juste choisit bien ses amis. Amen. Donc il faut choisir nos amis, choisir les personnes à qui on va donner du temps, que ce temps-là soit du temps de qualité. Comme ça, chaque fois, ça va nous permettre de pouvoir être motivés, de pouvoir rester motivés et de pouvoir des fois même avoir des solutions. Amen. Chaque homme de Dieu dans sa vie a eu des personnes comme ça. Marie, la mère de Jésus, elle a eu Élisabeth. Amen. Heureusement qu'elle a eu Élisabeth. Heureusement qu'elle est tombée sur une femme qui, 6 mois plus tôt, avait expérimenté à peu près la même chose qu'elle. Parce que quand elle allait voir Élisabeth et qu'elle a dit à Élisabeth, « Ah, le Saint-Esprit est descendu sur moi et je suis tombée enceinte. » Si Élisabeth elle-même n'avait pas vu l'ange qui lui a dit, son mari n'avait pas vu l'ange qui lui a dit que tu auras un enfant, et qu'elle a demandé, mais comment ça, cela va se faire? Et l'ange a dit, tu seras muet jusqu'à la naissance de l'enfant et tu l'appelleras Jean. Si Élisabeth n'avait pas eu cette expérience-là, elle a dit à Marie, écoute, arrête de me raconter des histoires. Ce que tu dis là, ce n'est pas possible. Elle a dit, faut me dire la vérité. Avec quel garçon tu allais fricoter? Moi, je connais quelqu'un qui peut t'avorter tout de suite. Il n'y a même pas de problème. Tu vois, Élisabeth allait être incapable de pouvoir l'aider. Et chaque personne a besoin d'une Élisabeth dans sa vie, de quelqu'un qui a peut-être, qui a déjà traversé les mêmes difficultés que tu es en train de traverser aujourd'hui. Cette femme-là va pouvoir te dire, effectivement, ce que tu vis là, moi-même, je l'ai vécu également. C'est pour ça qu'il faut entretenir vraiment des bonnes relations dans notre vie, avec des personnes qui sont capables de comprendre ce dont on est en train de leur parler. Si tu t'entoures de païens, de gens qui ne croient pas en Dieu, quand tu vas leur dire j'ai une vision, quand tu vas leur dire j'ai un fardeau, on va dire mais c'est quoi le fardeau? Tu parles de quelle vision? Toi-même, et quand tu vas dire je veux servir Dieu, on va dire mais pourquoi? Pourquoi? Et à chaque fois, au lieu de recevoir des paroles qui vont te permettre de devenir meilleur et qui vont te permettre, si tu veux, d'aller dans la mission et dans la vision que Dieu t'a donnée, tu vas plutôt avoir des éléments négatifs pour essayer de te décourager. Comprenez? Donc toi aussi, choisis tes interlocuteurs. Amen. Nous allons continuer aujourd'hui. Quatrièmement, il faut être prêt. Dis à ton voisin, sois prêt. Sois toujours prêt. Amen. Sois toujours prêt. Le succès, c'est quand l'opportunité rencontre la préparation. Amen. Lorsque l'opportunité vient et qu'on est prêt, c'est là qu'on a le succès. La saison du succès pour toi nécessite que tu vives dans un état d'attente et de préparation. Un état d'attente et de préparation. Ça veut dire que, au moment où tu te dis que ta vie va changer et que quelque chose va se produire, il faut que tu sois dans un état d'attente. Attente veut dire que tu t'attends à tout moment que Dieu se manifeste. Soit par Pierre, soit par Paul, soit par une autre opportunité, soit par quelque chose. Tu es en alerte. Vous savez, et cette attente-là peut durer longtemps. Ça peut durer 10 ans, ça peut durer 15 ans, ça peut durer 17 ans. David était en attente d'une manifestation de Dieu pour le mettre sur le trône d'Israël. Et ça a duré 17 ans, mais il était en attente. Amen. Malgré ça, il a eu des opportunités. Lorsque Dieu lui a livré Saül à 2 reprises, et qu'il avait la capacité de pouvoir accélérer le processus, il a quand même dit non. Il a dit non. Je vois que j'ai une opportunité, mais il me semble que cette opportunité-là n'est pas de Dieu. Parce que si Dieu veut me mettre sur le trône, Dieu lui-même va s'occuper de Saül. Et gare à moi si j'ose élever la main contre loin de l'Éternel. Parce que moi, un jour, je serai à cette position-là. Et si je me fais justice moi-même, quelqu'un me fera la même chose. Donc David avait cette capacité, malgré le fait qu'il ait vu certaines opportunités, de pouvoir discerner que c'était pas la bonne manière. Amen. Joseph, il était en attente. Quand il était dans la prison, quand il était chez Potiphar, il s'attendait à tout moment à ce que Dieu se manifeste. La preuve, lorsqu'il a interprété les songes des ministres de Pharaon, il leur a dit, lorsque vous allez sortir, parlez de moi à Pharaon, faites quelque chose. La Bible dit que lorsqu'ils sont sortis de la prison, ils l'ont complètement oublié. Dieu va permettre que tu puisses rendre des services à quelqu'un aujourd'hui. Et que le lendemain, cette personne va t'oublier. Mais sache une chose, c'est que cette même personne là peut se rappeler de toi à un moment où elle pourra faire quelque chose de puissant dans ta vie. Mais toi, tu dois toujours te dire que à chaque fois que tu fais quelque chose, c'est une semence que tu es en train de mettre dans le sol. Mais quand tu sèmes un noyau de mangue, ce n'est pas le lendemain que tu vas manger des mangues. Des fois, tu peux semer un noyau de mangue et puis te rendre compte que ce n'est que dans 3 ans, 4 ans que tu vas commencer à déguster des mangues succulentes et juteuses. Mais si toi-même, tu sèmes la chose et que tu viens détruire la semence, à quel moment est-ce que tu vas récolter? Et tu vas me dire, mais comment est-ce qu'on détruit la semence? On détruit la semence avec nos murmures, nos mauvaises paroles. Quand tu sèmes là, il faut laisser la chose partir. Tu sais, la seule manière de savoir que tu as semé, c'est quand la chose devient inutile pour toi. Quand tu ne peux plus l'utiliser, c'est là que tu as semé. Amen. Mais l'auteur de Proverbes a dit, il dit, jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. Il n'y a rien qu'on fasse pour Dieu qui est perdu. Donc, sois en attente. Sois en attente. Quand tu pries pour quelqu'un, attends-toi à ce que Dieu se manifeste. Quand tu attends vraiment le succès, sois vraiment dans une position d'attente et aussi de préparation. De préparation. Tu dois te préparer. Il y a des personnes qui, par exemple, veulent des gros contrats. Tu veux des contrats, par exemple, je sais pas, moi, je prends un exemple dans la sécurité. Mais si tu as envie de créer une entreprise de sécurité et avoir de gros contrats, il ne faut pas attendre d'abord qu'il y ait une opportunité de gros contrats avant de mettre les papiers de ton entreprise en règle. Commence d'abord à enregistrer l'entreprise. Prends les autorisations. Paye les licences. Aide tes dossiers au complet. C'est ça qu'on appelle la préparation. Comme ça, le jour où quelqu'un te dit « j'ai une opportunité », au moins on ne va pas rejeter ton dossier parce que tu n'es pas prêt. Est-ce que tu comprends? Une femme enceinte, dès le moment où elle apprend qu'elle est enceinte, elle commence à se préparer. Elle commence à préparer la venue de l'enfant. Il ne faut pas attendre d'abord d'avoir 8 mois de grossesse, 9 mois avant de commencer à préparer. Tu vas te préparer comment? Généralement, les moments où tu dois maintenant commencer à accoucher, c'est là que tu es fatigué, que tu as besoin de te reposer. Mais si tu n'as pas préparé la venue de l'enfant à 4 mois, à 5 mois, à 6 mois, à 7 mois, c'est pas 8 mois que tu vas pouvoir le faire. Vous comprenez? Donc c'est dès le moment où la femme sait qu'elle est enceinte, elle commence à préparer la venue de l'enfant. La préparation, c'est important. Pourtant, l'enfant n'est pas là. Mais tu es sûr que l'enfant va venir. De la même manière, quand tu attends une manifestation de Dieu, la chose n'est pas là. Mais si tu as la foi, tu es sûr que la chose va venir. Pourquoi? Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Or, quand on a la ferme assurance de quelque chose qu'on espère, on commence à se préparer pour la chose qu'on espère, sachant qu'elle est déjà là, mais qu'elle n'est pas encore matérialisée, mais qu'elle va se matérialiser. Et le jour où elle va se matérialiser, il faut que tu sois déjà prêt. Dis à ton voisin, prépare-toi. Amen pour ton miracle. Vous savez, les choses pour lesquelles tu pries ou que tu attends peuvent se matérialiser à un moment où tu n'es pas prêt. Est-ce que tu sais ça? Tu peux. On est là, on lance les prières comme ça. Oh Seigneur, Seigneur, permets que je rencontre. Ou bien Seigneur, permets ceci, permets cela. Mais si tu ne considères pas toi-même ta prière, tu vas lancer la prière. Mais si d'aventure, au moment où Dieu exauce la prière, tu n'es pas prêt, tu viens de rater ta bénédiction. Est-ce que tu me suis? Donc ce climat d'attente et de préparation est important dans la vie de tous ceux qui réalisent de grandes choses. Amen. Ça se sent, ça se voit. Tu sens que la personne attend quelque chose. Oh my God. Je peux prendre encore un exemple. Par exemple, dans le football, tu sais, dans le football, généralement, dans chaque équipe, il y a 11 joueurs sur le terrain. Il y en a généralement entre 22 et 30. Donc, il y a à peu près autant de personnes assises sur le banc que de personnes qui sont sur le terrain. Et très souvent, l'entraîneur, il prend son temps d'abord avant de faire entrer certains joueurs, parce qu'il y en a qui sont là, qui ont déjà l'expérience et tout. Donc tu peux être là et puis on va te faire jouer les 5 dernières minutes du match. Ça fait 6 mois que tu es dans l'équipe, tu n'as jamais joué un match. tous les jours, tu attends. 90 minutes, le match dure. Toi, tu es assis sur le banc seulement. Et puis maintenant, on te dit, bon, va t'échauffer. Il reste 10 minutes. 5 minutes avant la fin du match, on te dit, rentre sur le terrain. Mon frère, tu as 5 minutes. Non, ta préparation, ça a duré. C'est avant. C'est pas maintenant que tu as te préparé. My God. C'est maintenant que tu vas montrer que tu es prêt. Alléluia. Et ces 5 minutes-là peuvent changer ta vie. Et si par malheur, c'est ce jour-là que non, j'ai mal au pied, non, j'ai un petit problème, ou bien que la balle, on te donne la balle, même tu es devant le poteau, puis tu tires, la balle s'en va comme ça. On va te dire, ok, c'est ta carrière qui est partie comme ça. Avant qu'ils te remettent encore sur le terrain, tu vois, tu comprends. Donc même, vous savez, Dieu, quand Dieu nous visite, il nous prévient pas. Quand Dieu nous visite, il nous prévient pas. On va te dire, Dieu va venir te voir dans 3 jours. Regarde même dans Matthieu chapitre 24, verset 42 à 44. Matthieu 24, verset 42 à 44. La Bible dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. Amen. Donc même pour aller au ciel, là, il faut être en attente du ciel. Et il faut être prêt. Et il faut veiller, parce qu'on ne sait pas à quel moment il va venir. Amen. Ensuite, il dit, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous voyez, ce passage-là parle de la préparation, de se préparer à recevoir le Seigneur, mais de se préparer aussi à recevoir le voleur. Tu vois, il faut que, il y a des gens qui disent, oh, c'est leur affaire des délivrances là, moi je comprends pas, moi je suis pas dedans, mon frère. Des fois, on dit des choses. Aujourd'hui, c'est le frère qui a des problèmes. C'est lui qui est dans des difficultés. Tu comprends pas pourquoi est-ce que il parle de combat spirituel. Pourquoi il parle de jeûne et prière. Toi, tu ferais mieux de commencer à t'entraîner. Tu ferais mieux de commencer à savoir, à pratiquer le combat spirituel. N'attends pas le jour où l'ennemi va venir frapper à ta maison. C'est là que tu vas commencer à apprendre ce que c'est que le parlant. Tu vois, il faut te préparer à rencontrer aussi l'ennemi. Il faut que lorsqu'il va venir, il te trouve déjà prêt. Amen. Il dit, mais si le patron, si le propriétaire de la maison savait à quelle heure est-ce que le voleur allait... Si vous savez à quelle heure un voleur va venir chez vous, est-ce que vous allez vous laisser avoir? Jamais. Il ne peut pas vous avoir. On vous dit, aujourd'hui, le voleur va venir à 2h30 du matin. Même si vous êtes l'homme le plus dieu de la terre, il ne pourra pas voler quelque chose chez vous. Donc, la préparation, c'est l'élément qui vous donnera de l'avance sur l'ennemi et dans votre vie spirituelle. Préparez-vous à rencontrer Dieu. Il y a des gens actuellement, s'ils voient Dieu, ils ne savent même pas ce qu'ils vont lui demander. Ils ne savent même pas. Ils ne se sont pas préparés à la rencontre de leur Dieu. Or, la Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Tu dois te préparer. Si aujourd'hui Dieu te demande qu'est-ce que tu veux, est-ce que tu sais ce que tu vas lui demander? Tu vois, tu dois préparer cet élément-là. Il y a des personnes aussi, quand ils doivent rencontrer des gens importants, ils ne se préparent pas. On avait un chef d'État là, il aimait bien recevoir des gens. Mais les gens disent que quand tu viens devant lui, tu oublies tout ce que tu veux lui demander. Moi, je dis, c'est pas vrai. C'est parce que les gens ne sont pas prêts. Ils n'ont pas réfléchi d'abord à ce qu'ils voulaient vraiment avant de se présenter devant lui. Donc, il te prend par surprise. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Eh, monsieur le président. Et puis, le temps que tu balbuties, que tu cherches, il est déjà parti. Tu vois? Mais si tu es prêt, tu sais, c'est une chose. Tu mets pas 50 000 choses. C'est une chose qui est importante. Oh my God. Alléluia. Quand, regardez, Salomon fait 1000 holocaustes, 1000 offrandes. Ok? Et Dieu lui demande qu'est-ce que tu veux. Il ne demande pas 1000 choses. Il demande une chose. Ce qui prouve qu'il était prêt. Il savait. Quand il y a une chose que tu veux, tu ne peux pas l'oublier. Amen. Tu ne peux pas l'oublier. Et se préparer, c'est arriver à savoir la chose qui va changer ma vie, la chose qui va donner une direction à ma vie, la chose qui va me rendre plus percutant, plus fort, la chose qui va faire de moi véritablement cette personne que je veux être, cette chose qui va ouvrir les autres portes. Parce que quel que soit le nombre de portes qui doivent s'ouvrir, aucun homme ne peut rentrer par 5 portes en même temps, ni 2. On rentre tous par une seule porte. Quelle est cette porte-là, derrière laquelle se trouvent toutes les autres portes que j'ai besoin d'ouvrir dans ma vie? Identifie-la. Même si on te réveille à 5 heures du matin et que tu nettoies le sommeil de tes yeux, tu dois pouvoir dire, c'est ça que je veux. Et comme ça, tu vas rester concentré. Amen. Enregistre ton entreprise. Prépare les documents. N'attends pas que le contrat vienne d'abord. Amen. Cinquièmement, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Dis à ton voisin, n'abandonne pas. On a trop de personnes dans l'église qui abandonnent. Si j'étais à la place de Joseph, lorsqu'on les a vendus, lorsqu'on les a jetés dans le puits même déjà, ils allaient dire, quel est ce Dieu-là qui permet qu'on me jette dans le trou? Je le renie. Mais si tu le renies, c'est toi qui perds. Non seulement on l'a jeté dans le trou, mais après on l'a vendu comme esclave chez Pontifar. Il y en a qui allaient dire, ah, je croyais qu'en sortant du trou, j'allais aller dans le palais en même temps. Au contraire, ça s'empire. On me sort du trou pour me vendre comme un esclave. Et après, il se rend compte qu'avec sa persévérance et sa fidélité, Dieu le bénit chez Pontifar. Et Dieu lui permet de pouvoir devenir le numéro 2 dans la maison de Pontifar. Et il y a des personnes qui vont dire, oh, Dieu m'a béni. C'est ici que je dois être. Et de chez Pontifar, on pense qu'il va aller dans la maison du roi. Mais il rétrograde. De chez Pontifar, il va en prison. De chez Pontifar, il va en prison. Et à ce moment-là, c'est là que beaucoup de personnes craquent. Parce qu'ils ont été dans une position où ils ont commencé à manger un peu. Ils ont pensé que bon, Canaan est arrivé, mon frère. Quand Canaan arrive, c'est pas un peu que tu vas avoir. Alléluia. C'est-à-dire que il faut pas te être trop pressé. Il était chez Pontifar, c'est bien. Mais lorsqu'il s'est retrouvé en prison, beaucoup d'entre nous, ils allaient tomber dans la dépression. Mais il a dit non. J'ai fait un rêve. Et ce rêve-là, je vais continuer de le poursuivre. Dans la prison, il s'attendait encore à ce que Dieu fasse quelque chose pour lui. Alléluia. Il s'attendait encore à ce que Dieu se manifeste dans la prison. Aucune situation ne doit être trop désespérée pour que tu abandonnes ton rêve. Il a continué de rêver dans la prison. Et Dieu l'a sorti de la prison. La nuit, il s'est couché dans la prison. Le matin, il s'est réveillé dans la prison. Il a pris le petit déjeuner dans la prison. Mais le soir, il a dîné à la table de Pharaon. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire ce genre de choses-là. Alléluia. Prépare-toi et attends-toi à la manifestation de Dieu. Comment on sait que Joseph était prêt lorsque Pharaon l'a fait appeler? Quand il est arrivé devant Pharaon, est-ce qu'il a balbutié? Il n'a pas balbutié. Il a dit à Pharaon, tu vois 7 vaches maigres suivies de 7 vaches grasses. Il dit, c'est 7 vaches grasses, c'est l'abondance de l'Égypte, qui seront suivies par 7 vaches maigres. Il dit, mais qu'est-ce que je dois faire dans ce cas? Il dit, dans ce cas, tu dois pouvoir, pendant les sept années d'abondance, mettre assez de côté pour que dans les 7 années, il était déjà prêt. Le plan était déjà prêt. Quand il a fini d'expliquer et de montrer par A plus B, Pharaon regarde ses collaborateurs. Il dit, mais où trouverai-je dans toute l'Égypte quelqu'un qui soit autant rempli du Saint-Esprit. Oh my God. Vous savez pas que vous pouvez être rempli de l'Esprit. Vous pouvez être rempli de la parole. La grâce, l'onction de Dieu peut être dans votre vie et Dieu estime que le temps de vous révéler n'est pas encore arrivé et vous, oh my God. Et les gens même passent sur vous, ils crachent sur vous, ils disent du mal de vous, ils font ce que, mais Dieu vous prépare pour un moment. Tant que ce moment n'est pas arrivé, Dieu ne va pas vous révéler. Parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Joseph était l'homme indiqué pour la situation, mais la situation n'était pas encore arrivée. Donc, fallait le garder quelque part. Où? En prison. Là où sa liberté était restreinte. Là où il pouvait pas faire ce qu'il voulait. Où il pouvait pas aller où il voulait. Tu peux être dans une situation inconfortable. Mais ça ne doit pas t'empêcher de continuer de te préparer. Oh là là. Prépare les messages que tu vas prêcher. Prépare les interventions que tu vas avoir. Prépare les choses que tu vas faire. Quand l'opportunité va rencontrer la préparation, les gens vont se rendre compte que peut-être que tu as passé, attends, Joseph a passé 13 ans entre l'esclavage et la prison. Mais en moins de 2 ans, il a rattrapé tout le retard, même il a dépassé les gens qui étaient libres pendant ces 13 ans-là. N'est-ce pas? Le jour, prépare-toi seulement, le jour où ton opportunité va se présenter, tu vas dépasser même des gens qui ont même 10 ans d'avance sur toi. Des gens qui ont commencé à courir. Il y a des gens qui se moquent de toi. Oh, tu sais, moi j'ai déjà 2 maisons. Hein, toi, qu'est-ce que tu as? My God, tu sais qu'en 1 année, en 6 mois, si Dieu te bénit, tu peux acheter même 6 maisons. Hallelujah! Donc, faut pas regarder ça. Ne regarde pas ça. Tu vois? Michée chapitre 7, verset 8. Voilà un autre verset encore qui est traduit un peu bizarrement. Michée chapitre 7, verset 8. La Bible dit, dans la version française, « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. » Amen. La version en anglais dit, « Do not rejoice over me, my enemy. When I fall, » c'est pas si je suis tombé, hein, c'est quand je tombe. « When I fall, I will arise. » Quand je tombe, je vais me relever. Alléluia. « When I sit in darkness, » quand je m'assois dans les ténèbres, « The Lord will be my light, will be a light unto me. » Quand je suis assis dans les ténèbres, le Seigneur sera une lumière pour moi. Amen. Donc, ce n'est même pas « si ». Il arrive souvent que le juste tombe, mais l'Éternel le relève toujours. Alléluia. Donc ne te réjouis pas, mon ennemi. Ne te réjouis pas, car si je suis tombé, je me relèverai. Dis à ton voisin, je me relèverai. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Relève-toi. Alléluia. Faut pas regarder l'abandon. Faut regarder la victoire qui va sortir de l'échec ou bien de la situation. Regarde ça. Amen. Des fois, et très souvent, certains grands projets naissent des cendres ou bien des échecs. Il y a des choses que les gens veulent jeter, alors que il y a un petit détail dans cette chose-là qui va faire de cette chose-là une grande richesse, une grande bénédiction. Est-ce que vous savez que le projet de Microsoft, leur premier système d'exploitation, qu'on appelle DOS, c'était un projet qu'ils ont récupéré dans les poubelles de Rank Xerox. Rank Xerox qui fabrique les photocopieurs. Bill Gates et son ami Steve Jobs sont partis à Rank Xerox faire un stage et tout ça. Et ils ont vu les développeurs, les gens qui faisaient, qui initiaient les projets de Rank Xerox. Et ils lui ont montré un ordinateur avec une souris et tout ça. Et le gars, il avait mis ça dans une poubelle, il partait jeter. Puis Gates lui a demandé, c'est quoi ça? Il dit, on appelle ça une souris. Il dit, mais ça va faire quoi? Il dit, c'est avec ça que on va se déplacer sur l'écran de l'ordinateur. Il dit, mais pourquoi vous partez jeter? Il dit, ça n'est d'aucune utilité. Personne ne voudra de ça. Personne ne voudra de ça. My God. Aujourd'hui, chaque jour que Dieu fait, tu vois, on ne peut pas utiliser un ordinateur sans la souris. Chaque jour que Dieu fait, les souris se vendent par millions. Et c'est eux. Or, ce projet, c'est Ranz Zeroz qu'il avait. Jusqu'à présent, il continue de fabriquer des photocopieurs. Steve Jobs est devenu le président de Apple, qui fabrique les Macintosh, les iPhone et tout ça, les iPod et tout ça. Et Bill Gates est devenu le PDG de Microsoft. C'était un échec. D'un échec, ils ont fait un succès, ils ont fait une victoire. Quelqu'un peut échouer dans un domaine. Mais ce n'est pas parce que la personne a échoué dans ce domaine-là que toi, tu vas échouer. Il y a certainement quelque chose qu'il a mal fait. Et très souvent, ça peut être toi-même. Tu peux avoir une vision, tu peux avoir une idée, tu peux vouloir faire quelque chose. Et tu peux échouer dans la chose que tu as voulu faire. Mais ça ne veut pas dire qu'à l'origine, Dieu ne t'a pas parlé ou que Dieu n'est pas avec toi. Il peut arriver qu'il y ait un détail qui t'a échappé. Quelque chose que tu as mal fait. Et très souvent, si tu arrives à trouver cette chose-là que tu as mal faite et que tu corriges, alors tu auras le succès et puis tu auras la victoire. Alléluia. Ne te décourage pas. N'abandonne pas. Alléluia. Un petit détail, des fois, peut transformer un échec en victoire. Mais donc, dis à ton voisin, relaxe. Amen. Dis-lui, sois relax. Take it easy. Tu vois, faut pas être trop, je sais pas. Il y a des personnes qui se fatiguent inutilement, qui deviennent amères, frustrées, vivent en permanence dans le stress. Voilà les ennemis des grands visionnaires. Voilà les ennemis des personnes qui accomplissent des choses. Les trois grands ennemis, si je dois les citer par ordre, ça sera la fatigue, dangereux. Le stress, dangereux. Et la frustration. Quel que soit le fardeau que tu portes, il ne faut pas laisser le fardeau là te casser. Tu comprends, non? Il ne faut pas laisser le fardeau là te casser. Matthieu chapitre 11, verset 28 nous dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Si ton fardeau est trop lourd, là, va déposer ça au pied du Seigneur, et puis prends-lui son fardeau. Dis-lui, Seigneur, je te fais confiance. Tu dois apprendre à faire confiance à Dieu dans chaque domaine de ta vie, à chaque étape de ton projet. Reste calme et concentré. Donc, pour pouvoir contrecarrer ça, je vais te donner trois clés pour pouvoir contrecarrer ces effets qui sont dévastateurs. Parce que quand il y a la fatigue, l'ennemi sait que lorsque tu es fatigué, il peut t'attaquer également. Plus facilement. Parce que il y a des moments où tu es tellement fatigué que tu n'as même plus la force de prier. Il y a des moments où tu es tellement fatigué que tu n'es même plus vigilant. La fatigue est un ennemi. Et très souvent, les gens qui sont dépressifs, qui ont une tendance dépressive, ont tendance à faire des crises de dépression lorsqu'ils sont fatigués. Donc, au lieu de dire je suis fatigué, dis j'ai besoin de repos. Parle la solution au lieu de parler le problème. Quand quelqu'un dit « je suis fatigué », c'est comme si la dose de fatigue vient augmenter encore. À chaque fois qu'il dit « je suis fatigué », oh, « je suis fatigué », il y a des personnes, chaque jour, ils peuvent répéter au moins 10 fois « je suis fatigué ». Arrête ça. Comment est-ce que tu arrêtes le cycle de la fatigue? Donne-toi du repos. Et dis « venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos ». Alléluia. Donne-toi du repos. C'est important. Il y a des moments où tu ne peux pas faire grand-chose. Le problème est là. Ce n'est pas le fait de veiller, de te ronger les ongles qui va régler le problème. Tu dors bien. Si tu ronfles encore mieux. Ah, tu dors. Psaume 127, verset 2. Vous connaissez ce psaume-là, non? Psaume 120, tu prends le psaume 127, verset 2, et puis sur la base. Amen. Du psaume 127, tu dors. La Bible dit, en vain vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard, et vous mangez le pain de la douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. Faut pas accepter qu'un fardeau puisse t'empêcher de dormir. S'il y a un fardeau qui t'empêche de dormir, c'est que, qu'est-ce qui va arriver? Ce sera la fatigue. Et si la fatigue arrive, tu seras diminué vis-à-vis. Voilà. Fais confiance à Dieu. Amen. Des fois, fais confiance à Dieu. Tu dois rencontrer quelqu'un. Tu dois avoir une opportunité. C'est demain, à 8 heures. Mais repose-toi. Ça sert à quoi de veiller jusqu'à... Et finalement, tu veilles à 7 heures, tu commences à avoir sommeil. C'est là que tu dors. Pour finir, tu te réveilles à 8h30. L'heure du rendez-vous est déjà passée. Tu vois? Ensuite, contre le stress, fais du sport. Tu as dit, ah, pasteur, c'est toi qui nous dis de faire du sport. Fais du sport. C'est dans la Bible, hein? 1 Timothée chapitre 4, verset 8. 1 Timothée chapitre 4, verset 8. Et vous savez que la Bible parle de tout. Hein? Tout ce dont un chrétien a besoin, c'est dans la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 4, verset 8. Qu'est-ce que ça dit? Il dit, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Il n'a pas dit c'est inutile. On n'a pas dit l'exercice corporel est inutile. On dit c'est utile à peu de choses. Or, qu'est-ce qu'il a dit? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Or, l'autre c'est utile, mais à peu de choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mets un peu de sport dans ta vie. Tu sais pourquoi? Parce que la meilleure manière de lutter contre le sport, contre le stress, c'est de pratiquer l'exercice corporel. Sors marcher. Marche avec Dieu. Amen. Tu sais que des fois, tu es dans la maison et puis les problèmes t'assaillent. La situation veut t'étouffer. Tu sors. Tu vas marcher. Amen. Tu vas marcher. Tu flânes. Tu marches. Il y a des gens qui pensent que prier, c'est s'enfermer dans une pièce, se mettre à genoux et puis commencer à dire de longs discours. Prier, c'est parler avec Dieu. Amen. C'est communiquer avec Dieu. Tu peux être en train de marcher et tu es en train de chercher là. Tu es en train de parler avec Dieu. Tu mets le problème devant le Seigneur. Et puis en marchant, tu auras la solution. Alléluia. Sors marcher, sors courir. Va faire du sport. Dégage ton esprit de la chose. Et lorsque tu reviendras, tu vas revenir avec des solutions. Le Seigneur a dit, ça ne sert à rien de s'inquiéter. L'inquiétude n'a jamais changé un problème. Amen. Des fois, il faut savoir aussi, par exemple, voyager. Voyage. Alléluia. Voyage. Sors. Prends un break. Sors de la situation. Pendant ce temps, Dieu va te restaurer. Il va te préparer. Tu vas revenir avec des éléments qui te permettront de pouvoir affronter la situation. On dit, mais c'est dans quelle église où on nous dit, repose-toi, fais du sport, voyage, retire-toi, 2 jours, 3 jours. Tu te retires, tu vas, tu t'enfermes dans un hôtel. C'est pas obligé de jeûner, mon frère. T'es pas obligé. Tu te retires dans un endroit où tu n'as pas besoin de préparer. Tu prends ta Bible. Tu vas, tu manges la parole de Dieu. Tu manges la nourriture physique et tu dors. Quand tu as le temps, tu pries le Seigneur. Relaxe-toi. Apprends à relaxer. Tu sais, tu t'es stressé toute ta vie, ça n'a pas changé ton problème. Et même, au contraire même, tu t'es encore en plus enfoncé dans la situation parce que c'est devenu l'objet de tes pensées, l'objet de tes réflexions. Le Seigneur dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. À certains moments, il faut savoir déposer le fardeau là, au pied du Seigneur. Vous allez vous rendre compte que les gens, les grands responsables, ceux qu'on appelle, je sais pas moi, les patrons des grosses entreprises, ce sont des choses. Il y a pas des personnes qui savent se reposer, voyager mieux qu'eux. Pourtant, ils ont de grosses responsabilités. Toi, si on te confie tout de suite une entreprise qui vaut 2 milliards d'euros, tu n'as pas dormi. Qu'est-ce que le gardien fait? Qu'est-ce que le gardien fait? Et la secrétaire? Bon, et le coffre? Tu vas vouloir avoir des caméras partout pour tout sur. Mais attends, si tu vis comme ça, tu vas pas, je te donne pas 2 mois. Tu vas aller faire un stage. Dans un hôpital psychiatrique. La chose, le repos que tu n'as pas voulu avoir de toi-même, là. On va te mettre des calmants, des trucs comme ça. Parce que tu pourras pas. Apprends, dis à ton voisin, apprends à faire confiance à Dieu. Amen. Tu vois, il y a certaines situations que tu ne peux pas gérer. Ça appartient à Dieu. Dieu nous dit, par exemple, nous, notre responsabilité, c'est de semer. Mais il n'a jamais dit que c'était notre responsabilité de faire croître la semence. Qui peut aller planter un noyau, par exemple, de mangue, et puis venir, tu mets ta chaise devant le noyau, tu t'assois, tu dis, là, maintenant, là, le noyau, là, ça va pousser devant moi. Et tu es là. Tu sais ce que tu as fait? Tu vas tuer le noyau, là. Tu vas le tuer. Ça ne va jamais donner de mangue. Parce que tu as dit, mais pourquoi depuis là, ça fait 4 jours que je n'ai rien vu encore? On dirait que le noyau là, il est mort, effectivement. Quand tu vas, après tu vas ouvrir pour voir. Et tu vas voir que c'est pourri même, c'est gâté. Tu as dit, mais mon noyau est gâté. Oh, la Bible dit que le noyau là, lorsqu'il est planté, il est semé dans la terre. S'il ne meurt, il ne peut porter du fruit. Tu dis, mais c'est gâté. Tu vas enlever, tu vas y jeter, tu vas aller planter un autre, tu vas t'asseoir, tu dis, aujourd'hui là, le mangue va sortir devant moi. Ça ne va pas sortir devant toi. C'est pas ton rôle de faire pousser la semence. Une fois que tu as planté, c'est maintenant entre les mains du Seigneur. Alléluia. De temps en temps, tu peux venir regarder, mais il ne faut pas venir mettre ta chaise devant. Le fait que tu mettes ta chaise là, c'est pas ça qui va faire que ça va pousser plus vite. Tu comprends? Il y a des choses qui sont entre les mains du Seigneur. Quand une femme est enceinte, quand les 9 mois arrivent, elle accouche. Si tu veux, il faut parler en langue. Vous dites non, 9 mois ça ne m'arrange pas, il faut que l'enfant fasse 11 mois. Tu jeûnes, tu pries, tu fais ce que tu veux. Ça ne va pas arriver. Est-ce que tu comprends? Et si nous les hommes, on voyait ce qui se passait constamment dans le ventre, l'enfant là, nous-mêmes, on allait le tuer. Il y a des moments où il ne bouge pas. Il y a des moments où il bouge. Il y a des moments où il dort. Il y a des moments où il joue. Il y a des moments où il tourne. Tu vas dire, mais je vois l'enfant, il est en train de tourner. Est-ce qu'il n'est pas malade par hasard? Ou bien il est prêt. Non. Pourquoi pour certaines choses, tu sais faire confiance à Dieu? Et puis pour d'autres choses, tu ne lui fais pas confiance. Chaque 2 minutes, Seigneur, le rapport, fais-moi le rapport. La situation, c'est comment? Reste tranquille. Fais confiance à Dieu. Amen. Et puis, dernière chose, sois reconnaissant. Amen. Vous savez, les personnes ingrates envers Dieu sont des personnes qui murmurent souvent. Vous savez pourquoi? Parce que ces personnes-là se concentrent plus sur ce que les autres ont que sur ce que Dieu est en train de faire dans leur vie. Tu regardes les autres. Ah, la sœur, elle est même là. Elle est bien. Elle a déjà sa voiture. Elle a sa société. Mais tu ne vois pas ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Est-ce que tu connais l'histoire de la sœur? Tu sais, depuis qu'elle connaît le Seigneur, tu sais par où elle est passée? Tu sais ce qu'elle a fait pour avoir ça? Occupe-toi de toi-même. Il y a des gens qui ne voient pas ce que Dieu est en train de faire dans leur vie. Il y a 1 an, tu ne le connaissais pas. Il y a 1 an, tu mourais, tu partais direct en enfer. Maintenant, tu es sauvé. Déjà, même ce salut-là, sois reconnaissant à Dieu pour ça. Eh, merci Seigneur de m'avoir sauvé. Parce que moi, je sais que si je meurs là, je vais aller dans le royaume de Dieu. C'est déjà ça. Et ce qu'il est en train de faire, Reconnaître toujours ce qu'il est en train de... Parce que les gens qui ne reconnaissent pas et qui ne sont pas reconnaissants envers Dieu sont des personnes qui ne vont pas avoir beaucoup de bénédictions. Quand le peuple d'Israël était dans le désert, ils ont dit, Seigneur, on a faim, on veut manger du pain. Dieu leur a envoyé du pain, leur a envoyé ce qu'on appelle la manne. Quand ils ont vu la manne là, ils ont dit, hey, c'est quoi ça? C'est quoi ça, manna là? Ça veut dire, c'est quoi ça? Ils ont pris, ils ont mangé. Au début, ils aimaient bien. Mais, comme ils n'étaient pas reconnaissants, au lieu de dire, merci Seigneur pour le pain que tu nous envoies, dans le désert, tu manges du pain. Et ça tombe du ciel. Dis merci Seigneur. Ils disent, oh, on se rappelle des bonbons concombres, des tomates et des oignons qu'on mangeait en Égypte. Ils commençaient à chaque fois. Et il y a des gens qui pensent qu'ils sont en train d'influencer Dieu quand il leur parle de ce qu'ils ont expérimenté dans le monde. Oh, je me rappelle, quand j'étais dans le monde, chaque fin du mois, j'avais de l'argent, je partais, je faisais ceci. Mon frère, arrête ça. Nous tous, on était dans le monde. Le diable te foutait. Ton argent, tu faisais rien de bon avec ça. Tu souffrais. Et le Seigneur t'a délivré. Dis merci Seigneur pour tout ce que tu es en train de faire dans ma vie. Chaque élément, remercie-le. Faut pas regarder ce qu'il n'a pas fait. Regarde ce qu'il a fait et dis-lui merci pour ce qu'il a fait. Et il te donnera ce que tu attends. Mais Dieu, faut pas être reconnaissant, tu vas voir. Ils ont mangé la manne tous les matins. Jusqu'à ce que, quand ça venait même, ils regardaient ça comme ça. Ça leur disait plus rien. Ils ont commencé à dire, moi, je hais, mon âme hais cette manne. Ça me sort par les narines. Vous savez, les enfants, c'est terrible. Quel que soit le repas que tu aimes, à part certaines personnes qui sont vraiment très, très spéciales, si on te sert ce repas-là tous les jours, pendant un an, deux ans, tu vas commencer à être dégoûté, même si c'est ton plat préféré. Or, avec Dieu, si tu veux qu'il change ce qu'il te donne, c'est pas en te plaignant, hein, mais c'est en étant reconnaissant. C'est pas le jour où tu vas dire, c'est encore ça. C'est encore. Tant que tu vas dire, c'est encore ça, ça va venir. Amen. C'est quand tu vas dire, merci Seigneur pour ce repas que tu m'as donné. C'est là qu'il va dire, ah, d'accord. Ma fille est prête pour avoir quelque chose de meilleur. Amen. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16. Soyez toujours joyeux. Dis à ton voisin, sois toujours joyeux. Tu vois, c'est un commandement. Touche encore ton voisin, touche encore ton voisin. Peut-être sa figure est serrée. Dis-lui, sois toujours joyeux. Amen. Le jour où tu vois ton frère ou bien ta soeur arriver à l'église, la figure serrée, tu dis, frère, viens ici. Tu touches ton frère. Sois toujours joyeux. Amen. Tu dis à la soeur, sois toujours joyeuse. Où sont tes dents? Je veux voir tes dents. Où sont vos dents? Soyez joyeux. Amen. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16. Qui a déjà lu ce verset-là? Voilà. Soyez toujours joyeux. Amen. Verset 17, priez sans cesse. Verset 18, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et ensuite il dit, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Parce qu'une manière d'éteindre l'esprit, c'est de serrer sa figure. Et le Saint-Esprit, il aime les gens qui sont joyeux. Amen. Amen. Touche ton voisin encore, dis-lui, sois joyeux. Remercie Dieu pour toutes les bénédictions. Amen. Tout ce qu'il a fait pour toi, même quand c'est petit, dis-lui merci. Et puis une autre chose que je vais te dire aussi, apprends à compter tes bénédictions. Oui. Apprends à compter tes bénédictions. Le Seigneur a fait ci, le Seigneur a fait ça, le Seigneur a fait ça, le Seigneur a fait ça. Même la plus petite chose. Amen. Si tu as une mauvaise mémoire, prends un cahier. Quand tu reçois une bénédiction, écris. Tu mets la date, tu mets l'heure. Dieu a fait ci. C'est bon. Prends un cahier. Parce que des fois, tu parles à des personnes, tu as l'impression que Dieu n'a jamais rien fait pour eux. C'est ce que le diable veut te faire croire. Or, si tu as un cahier là, quand le diable vient et te dit, mais depuis là, tu es derrière Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Tu sors le cahier, tu dis, voilà ce qu'il a fait pour moi. Un gros cahier qu'on s'est rempli. En telle année, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ceci, il a fait cela. Et quand tu vas commencer à voir tout ce que Dieu a fait pour toi, tu vas dire non. Si Dieu a été capable de faire ça pour moi, ce n'est pas les petites choses qui manquent là qu'il ne sera pas capable de faire. Faisons confiance à Dieu. Soyons tranquilles. Soyons joyeux. Dieu, il agit dans notre vie. Au lieu de regarder ce qu'il a fait dans la vie de Pierre et de Paul, regarde ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Remercie-le pour ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Et tu vas voir que un jour, quand tu vas regarder Paul même, c'est Paul qui va dire, est-ce que vous savez que la Bible dit que nous, on a hâte de les rencontrer et de les voir dans le royaume de Dieu. Mais est-ce que vous savez que eux, la Bible dit que eux, ils ont hâte de nous rencontrer et de nous voir dans le royaume. Des fois, tu vas te rendre compte, quand tu restes concentré sur les choses que Dieu veut que tu fasses, tu vas te rendre compte que les gens que tu envies, en réalité, ce sont eux qui t'envient. Amen. Ce sont eux qui t'envient. Les gens du monde disent que l'herbe du voisin est toujours plus verte que la nôtre. Mais c'est vrai, tu passes ton temps à regarder son jardin. Mais si tu passes ton temps à regarder son jardin, à quel moment tu vas t'occuper de ton jardin? Tu viens dire à la fenêtre là, hé, hey, ils ont acheté un nouveau truc, hé, hey, il a planté des tulipes, oh, il y a arbre maintenant. Oh, mais laisse le jardin de ton voisin, occupe-toi de toi ton jardin. Hein? Même si c'est des tuiles que tu vas aller chercher même, et que tu vas venir mettre de la peinture, vernir, ce genre de choses. En t'occupant de ton jardin, à un moment, tu vas te rendre compte que l'inspiration va venir, la fraîcheur va venir, la joie va venir, l'engouement va venir. Et un matin, c'est ton voisin qui va dire, « Hé, ton jardin est joli, hein, ma sœur ?» Oui. Et c'est ce que Dieu a dit à Caïn. Dieu a dit à Caïn, « Écoute, Abel, cette fois-ci, a mieux fait que toi. » Il dit, « Mais si tu n'agis pas bien, tu ne relèveras pas la tête. » Mais ne te concentre pas sur Abel, concentre-toi sur toi-même. Et alors, tu relèveras la tête. Mais Caïn n'a pas écouté ça. Il a continué de regarder Abel. Et qu'est-ce qu'il a fini par faire? Il a fini par aller tuer Abel. Tu vois, envier les autres, regarder les autres, va nous pousser à devenir des sorciers, des criminels, des méchants, des gens aigris. Tu es là, tu es aigri. Qu'est-ce qu'elle a même de plus que moi et puis Dieu l'a béni? Finalement, tu vas devenir le diable. Reste tranquille. Occupe-toi de toi. Dis à ton voisin, occupe-toi de toi. Amen. Sache que Dieu est la source de tout ce que tu as. Et de tout ce que tu n'as pas encore. Et de tout ce que tu auras. Alléluia. Et Dieu n'a pas encore fini avec toi. Amen. Tant que tu vis là, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Tu peux faire 13 ans dans la prison. 13 ans dans la prison, c'est pas une petite affaire. Hein? Non, il y a des gens, on va dire non, un an en prison, c'est bon, ça suffit. 2 ans. Mais regardez, on a un exemple là, Nelson Mandela. Il a fait combien d'années en prison? Combien d'années il a fait en prison? 27 ans en prison. 27 ans en prison, toute une génération. Ça veut dire que lorsqu'il est parti en prison, les enfants qui venaient de naître avaient 27 ans lorsqu'il est sorti de la prison. Mais il est sorti de la prison quelques mois plus tard. Il était le premier président noir de l'Afrique du Sud. My God. Des fois, la prison là, c'est bon pour toi. S'il était dehors, ils allaient le tuer. Tu vois? S'il était dehors là, vous allez le tuer. Combien d'opposants sud-africains les gens n'ont pas tué? Steven Biko, tout ça, les gens les ont tués. Au moins, tu es en prison. Quand les Sud-Africains l'ont mis en prison, toutes les nations du monde entier ont dit, il est sous votre responsabilité. Le jour où il meurt, c'est vous qui l'avez tué. Donc ils étaient obligés de veiller à sa sécurité. Et ils l'ont gardé jusqu'à ce que le moment soit bon pour qu'il sorte de la prison. Il n'a pas eu besoin de trop parler dans la prison là. Sa renommée a commencé à grandir. Tous les chefs d'État le connaissaient. Des gens même qui ne le connaissaient même pas ont commencé à chanter son nom. Une fois même, on a un artiste en Côte d'Ivoire, un chanteur de reggae, il a fait une chanson. Nelson Mandela, ça a très bien marché. Le journaliste lui a demandé, mais tu chantes Nelson Mandela, Nelson Mandela. Nelson Mandela, c'est qui pour toi? Il dit, Nelson Mandela, c'est un blanc qui a trop lutté pour les Noirs. Donc, il ne sait même pas qui est Nelson Mandela, mais il chante Nelson Mandela parce que le moment était arrivé. Quand le moment de libérer Nelson Mandela est arrivé, my God, aucun chef d'État sud-africain ne pouvait l'ignorer. Le monde entier réclamait sa libération. Les gens ont marché en France, aux États-Unis, dans le monde entier. Aujourd'hui, Nelson Mandela est une référence. Il est un modèle de sagesse. Pourtant, il n'a pas fait grand-chose. Il a supporté les 27 ans de prison. Toi, tu penses que ta situation est trop grave pour que Dieu fasse quelque chose de toi? Dis à ton voisin, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Alléluia! Il faut que tu le crois. Il faut que tu le crois. Dieu n'a pas encore... Quelqu'un se moque de toi, dis mon ennemi. C'est pas grave, moque-toi de moi. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Dieu n'a pas encore fini avec moi. Alléluia! Il n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu n'a pas encore fini avec moi. Tu peux pas t'arrêter à une période de la vie de quelqu'un et puis commencer à te moquer de lui. Dieu n'a pas encore fini avec lui. Tu ne sais pas là où Dieu est en train de l'amener. My God! Tu ne sais pas à quelle étape de sa vie tu le trouves. Amen. Concentre-toi sur ce que tu as à faire. Mets ta confiance en Dieu. Il fera sa part. On va se lever, on va prier le Seigneur. Aujourd'hui, donc, tu as les clés. Tu n'as pas le droit d'échouer. Alléluia. 2010, tu dois encore avancer. Tu dois grandir. Tu dois accomplir de grandes choses. Alléluia. Tu vas te lever, tu vas prier ton Dieu ce soir. Dis-lui, Seigneur, je sais que tu n'as pas encore fini avec moi. À partir de maintenant, je refuse de me plaindre. Je refuse de murmurer. Je refuse d'être triste. Je refuse de me laisser submerger par la fatigue, par le stress, par toute forme de pensée qui n'est pas de toi, Seigneur. Que toute forme de frustration soit banni de mon cœur et de ma vie au nom de Jésus. Je refuse d'être frustré, d'être aigri, d'être envieux, d'être jaloux, car je sais que celui en qui j'ai cru est plus que capable de me faire entrer dans mes rêves et dans mes bénédictions. Je mets ma confiance en lui et en lui seul. Je refuse de porter tout fardeau qui veut m'écraser. Je les dépose au pied du Seigneur et je prends le joug du Seigneur. Ce joug doux et léger, je le prends à la place des fardeaux. Père, je reconnais que tu es un Dieu fidèle, que tu es un Dieu puissant, que tu es un Dieu capable de renverser toute forteresse et toute opposition dans nos vies, Seigneur. Tu es capable de retirer l'indigent du fumier et de le faire asseoir avec les rois et les grands de ce monde.
Je ne permettrai jamais, jamais à mon âme de te renier. Je resterai toujours attaché à toi, car je crois que tu me conduis dans de verts pâturages, près des eaux paisibles, et que tu rendras mon témoignage grand devant les hommes et devant toi, sur la terre et dans les cieux. Éternel, marche avec moi, marche avec moi, marche avec moi dans mes entreprises, dans mes projets, dans mes affaires, dans mes activités. Je veux que tu sois avec moi, Seigneur, car sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien. Mais avec toi, je peux tout, je peux tout, je peux tout par celui qui me fortifie. Fortifie-moi, Seigneur, à tous égards, à tous égards, à tous égards, et que cette année qui va bientôt commencer soit une année de percée, de réalisation, d'accomplissement. Mes ennemis regarderont, ils verront, ils entendront que l'Éternel est grand, que l'Éternel est bon, que l'Éternel est puissant, que l'Éternel est fort, que l'Éternel est terrible, que l'Éternel est puissant pour accomplir ce que sa bouche a décidé et que ses mains ont décidé. Que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit amen. Alléluia. Sois toujours joyeux. Amen. 1er janvier au 31 décembre, sois joyeux. Dieu n'est pas mort. Le seul jour où tu dois te permettre d'être triste, c'est le jour où on t'annonce que Dieu est mort. Comme ce jour-là n'est pas près d'arriver, alléluia, il n'y a aucune raison que tu sois triste. Il est vivant.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseigne-moi.org. www.association-enseigne-moi.org.